Point de repère. Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour une nouvelle émission qui se situera, comme d'habitude, à la croisée des spiritualités. Aujourd'hui, je vous propose le sujet suivant, la présence musulmane en Europe entre les faits et les imaginaires. Une fois de plus, nous allons essayer de décoder ce qui est pour beaucoup une préoccupation, une question, voire une peur. C'est donc la présence musulmane en Europe. Et nous savons que beaucoup simplifient et instrumentalisent toutes ces questions. Notre but n'est pas vraiment de simplifier, parce que les simplismes ne sont pas loin, mais d'ouvrir pour éclairer. Et pour faire cela, j'ai le plaisir d'être reçu par M. Farid El Asri. M. El Asri, bonjour.
Bonjour.
Et merci de me recevoir sur un des lieux de vos interventions et de travail à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes anthropologue et fin observateur de la présence musulmane en Europe et notamment de l'expression musicale chez les jeunes musulmans. La musique comme observatoire de la transformation des mentalités. C'est le sujet de votre thèse de doctorat. Mais vous intervenez aussi, bien sûr, en Belgique, au Maroc, en Italie, je pense aussi. Et donc, vous avez des activités multiples. Quand on aborde la question de la présence musulmane en Europe, l'approche doit tenir compte des faits et des imaginaires. Dans un de vos écrits, vous citez Stefano Allievi. L'imaginaire public est crucial. Dans un certain sens, il l'est même plus que la réalité des processus sociaux en cours. Fin de citation. Cette phrase est saisissante et c'est pour ça que je la répète. L'imaginaire public est crucial. Dans un certain sens, il l'est même plus que la réalité des processus sociaux en cours. Voilà, nous aurons l'occasion certainement de déplier cette phrase et c'est pour ça que j'ai titré cette émission « La présence musulmane entre les faits et les imaginaires ». Cette articulation donc entre les faits et les imaginaires réciproques, nous parlerons des musulmans et des non-musulmans, eh bien, cette articulation nous permettra de mieux saisir les transformations des subjectivités. Le discours socio-anthropologique se situe par définition à la croisée des chemins. Il sera donc question d'identité, de références religieuses, de mémoire et d'histoire, des normes démocratiques et bien entendu de tous les efforts d'harmonisation de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Notre parcours, et M. El Asri, vous avez proposé ce parcours sur un axe historique au sens large, le passé, le présent, l'avenir, notre parcours va se développer sur quelques maîtres mots. L'autre, la rencontre de l'autre, ou la peur de l'autre. Premier mot-clé. Deuxième mot-clé, les stéréotypes, et les stéréotypes réciproques, qui bien entendu sont un obstacle à la communication, à la découverte de l'autre. Troisième mot-clé, la crise. Mais la crise au sens étymologique, puisque ça vient d'un verbe grec qui signifie « choisir ». La crise comme moment de choix. Et on peut évidemment faire un choix négatif et on peut aussi faire un choix constructif. Et donc, la crise est peut-être une chance. Dans cette appréhension des transformations des subjectivités, nous pouvons nous situer sur un plan éthique, c'est-à-dire le plan de nos valeurs concrètement vécues. Et même sur le plan de l'accueil de l'autre. S'il y a bien une question d'actualité, c'est celle-là. Si c'est le cas, j'aimerais revenir un instant sur la distinction de Max Weber. Distinction entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. L'éthique de conviction ne supporte quasi aucun compromis. L'éthique de responsabilité pose que nos actions ont un retentissement sur l'ensemble du tissu social et cette éthique appelle des ajustements et peut-être même des prudences. Les pauses musicales de notre entretien seront tirées toutes de ce très beau CD qui est intitulé « Orient-Occident 1200 à 1700 », l'ensemble Hespérion 21, sous la direction du merveilleux musicien qu'est Jordi Savall. Ce projet a été initié juste après les événements du 11 septembre 2001. Voilà, monsieur El Asri, eh bien nous commençons notre voyage dans le temps et dans le passé. Vous avez proposé de parler de la profondeur des clichés et des stéréotypes.
Oui, la profondeur des clichés et des stéréotypes comme, je dirais, comme point de connexion à la problématique qui nous concerne, parce qu'effectivement, la présence d'islam aujourd'hui interroge, interpelle, tant sur le plan, je dirais, d'un certain nombre de pratiques, d'une réalité, d'une présence. Mais le débat peut rester, si vous voulez, à l'écume des vagues, et les grands courants nous disent autre chose. Nous disent que nous sommes souvent à niveau des émotions, des entrailles sur la représentation, la perception de l'autre. Et en tout cas, tout ceci nous donne un indicateur sur le fait que nous n'avons pas de rapport virginal avec l'islam, et que l'islam n'a pas de rapport virginal avec l'Occident, avec l'Europe, avec le christianisme, historiquement parlant. Donc il est important de faire un pas de côté au-delà d'une dimension sociologique et sociopolitique d'une présence d'islam dans le contexte européen, pour rentrer vraiment, je dirais, dans les entrailles de l'histoire et voir comment les imaginaires, dans leur profondeur jusqu'au haut Moyen-Âge, parviennent encore à induire certains comportements, à permettre, si vous voulez, de construire une représentation consciente ou inconsciente de l'altérité, et réciproquement, encore une fois. Et donc, pour moi, c'est un passage nécessaire. Donc, ce n'est pas un recul pour s'éloigner du sujet, c'est une plongée dans l'histoire pour être au cœur de l'actualité. Et je prends simplement l'exemple des caricatures, notamment des caricatures danoises, mais également des caricatures de Charlie Hebdo et de l'ensemble des caricatures qui aujourd'hui tournent directement ou indirectement sur la question de l'islam, et notamment du prophète de l'islam. Et on se rend compte à quel point il y a une survivance de clichés, de stéréotypes et d'imaginaires sur l'islam. Alors le débat, il n'est pas autour du blasphème ou de la liberté d'expression ici, c'est que veulent dire les images. Et moi j'ai été parmi ceux, notamment au lendemain des caricatures danoises, de dire qu'il faut profiter de ces 12 représentations du prophète de l'islam pour lancer un débat de déconstruction des représentations réciproques. Et notamment on voit deux choses dans le cadre de ces caricatures. La première, c'est la question de la violence supposée, avec la représentation notamment du prophète avec le turban et une bombe posée dans le turban. C'est l'image la plus frappante. Et puis la deuxième des choses, c'est cette sorte de sexualité permissive. Vous savez, c'est les mille vierges, c'est la polygamie, etc. Et les caricatures reprenaient ceci. Une présentation un peu surdimensionnée de femmes autour d'un homme. Et on se rend compte finalement que la sexualité permissive et la question de la violence, ce sont les deux clichés qui traversent l'Europe en termes de représentation sur l'islam depuis au moins le XIIe siècle. Donc rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais il y a l'urgence effectivement de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes paramétrés par cette représentation d'un islam qui serait génétiquement violent ou génétiquement, je dirais, injuste vis-à-vis de la femme. Et là, le travail, si vous voulez, d'une sorte d'archéologie des représentations devient de salut public. Ça devient une urgence pour pouvoir finalement dépasser ceci. Il y a quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années, avec le père Ignace Bertin, nous avions travaillé sur la question de la déconstruction des représentations réciproques, notamment des imaginaires de l'islam sur le christianisme et du christianisme sur l'islam, à partir d'une... je dirais d'un fait historique assez récent, notamment au lendemain de la Seconde Guerre. Les historiens français et allemands se sont mis autour d'une table pour penser l'histoire ensemble, et donc pour faire mémoire commune, et ainsi finalement dépasser un certain nombre de tensions en termes de, je dirais, de concurrence des imaginaires et des représentations. Parce que jusque dans les années 60 encore, on représentait des caricatures du soldat allemand qui envahissait le paysage strasbourgeois. Et donc il y a eu un travail de fond par rapport à ceci. On s'est dit pourquoi pas imaginer aller vers ce même travail en termes de déconstruction des représentations pour finalement se redécouvrir réellement. Autrement dit, pour faire transiter le débat des tripes vers celui d'une intelligence, d'un regard nouveau sur l'autre.
Et si on ne déconstruit pas les représentations, elles sont permanentes car tous les spécialistes des représentations disent à quel point elles sont en béton armé. Elles sont véritablement très très solides, et justement solides parce qu'elles sont implicites. Donc il y a eu ce geste des franco-allemands là, ce qui était un geste prophétique pour vous, enfin en avance sur son temps en tout cas.
Oui, parce qu'en plus il s'agissait aussi d'aller vers vraiment des recommandations politique sur le fait de dire voilà le chantier qu'il faut aujourd'hui investir, et notamment dans le domaine de l'enseignement. Il est urgent aujourd'hui de retravailler l'image, parce que bon, quand on regarde un certain nombre de manuels scolaires, notamment un travail qui avait été fait assez important en 2005 sur les manuels scolaires espagnols, on avait une série de, je dirais, d'ingrédients qui vous annoncent finalement la perception qu'aura le citoyen espagnol sur son concitoyen musulman, et qui est d'emblée chargé. Et donc, au-delà des mythes, des surreprésentations, d'une série de raccourcis, etc., il faut absolument prendre ceci à bras-le-corps pour pouvoir finalement aller vers une réconciliation avec la prise de conscience que la réalité de l'Europe se transforme. Et je crois qu'il est là le cœur même du débat, c'est qu'aujourd'hui, on a difficile à sortir de nos représentations réciproques, parce que nous n'acceptons pas la réalité sociologique d'une Europe qui se transforme. Et ce qui est pour moi évidemment une opportunité, une chance, mais où on peut comprendre aussi la difficulté de voir le changement. Et là on a un défi commun, et les musulmans citoyens européens sont impliqués sur ce défi. C'est de prendre également dans les débats, au-delà de leur revendication du droit, de prendre également en compte la dimension psychologique. C'est difficile pour un certain nombre d'entendre, de voir, de constater sur le plan urbanistique, sur le plan sociologique, que le mythe de l'homogénéité de la culture est remis pleinement en question. Et qu'aujourd'hui, des musulmanes, musulmans engagés dans le champ européen sont aussi européens. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, cette nouvelle présence interroge à la racine l'identité européenne. Si tu dis que tu es comme moi, qui suis-je moi au fond ? Et donc, c'est ça le vrai débat. Et c'est pour ça que le débat identitaire, dans le cadre d'une crise, nécessite de poser, de mettre les choses à plat et de ne pas tirer, de continuer de tirer des casseroles. Sinon, nous rentrons dans un débat, je dirais, assez guévariste en termes de revendications. Nous avons le droit, voilà ce que dit la Constitution européenne, voilà ce que dit la Constitution belge, voilà ce que disent les textes. Et effectivement, sur le plan du droit, il y a un certain nombre d'acquis, d'évidences, et par ailleurs aussi des discriminations, et qu'il faut lutter contre ces discriminations, mais ça ne suffit pas, ça ne suffira pas pour faire corps ensemble.
Vous soulignez à quel point nous sommes imprégnés par ces images. C'est vrai qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a l'image de l'affreux mort, hein, le musulman, donc au fond, qui est donc senti comme l'antéchrist. Mais il y a aussi cette expression, et vous y avez fait un petit peu allusion, beaucoup de gens disent « l'Europe ne sera plus l'Europe ». Mais effectivement, l'Europe ne sera plus l'Europe. D'ailleurs, quand on voit l'histoire de l'Europe, il y a eu quand même énormément de changements, et de changements dynamiques d'ailleurs. Nous avons senti les représentations des Occidentaux sur... des Européens, pardon. Les représentations des Européens sur l'islam. Il y a donc aussi, bien entendu, des représentations des musulmans par rapport au christianisme et par rapport à l'Europe.
Oh, bien évidemment, il y a non seulement des représentations, mais un lourd passif commun, fait de douleurs, de rencontres parfois bénéfiques évidemment, mais aussi un référentiel scripturaire, théologique, qui peut parasiter, ou en tout cas dans une interprétation abusive, le regard sur l'autre. Et donc on peut avoir, en tension, même dans la rencontre, un débat sur un conflit de vérité. Tout comme l'Europe s'est interrogée sur le fait de pourquoi il y a une avancée de l'islam, est-ce que Dieu nous a abandonnés et il s'est mis du côté des musulmans. Il a fallu trouver, dans la valise théologique des réponses pour dire que non, en fait, les musulmans, même s'ils sont victorieux aujourd'hui, c'est simplement une épreuve du christianisme, une épreuve au christianisme qui reste sur la vérité. On a trouvé ceci dans les textes, dans l'Apocalypse, dans d'autres, etc., références. Et dans la réalité musulmane, il y a aussi un positionnement sur la question de la vérité. Qui est l'autre ? Dans le judaïsme, le christianisme, etc., il y a un regard, une lecture qui est faite et qui, dans certaines interprétations, peut, peut, je dirais, forger une représentation et quelque part la figer, historiquement parlant. Et un certain nombre peuvent effectivement abuser d'anachronismes ou exploiter des éléments de l'histoire sans les resituer dans leur contexte et faire une lecture relativement saillante de l'altérité. Donc ça peut être évidemment problématique. En plus, je dirais, des expériences douloureuses telles que les croisades, qui est restée traumatisante dans l'esprit. Et c'est pas pour rien qu'on a vu certains groupuscules mentionnés, même dans leur lutte contre les États-Unis et les coalitions internationales, dire que les croisés reviennent. Donc c'est pas innocent, l'exploitation de ces termes-là. Puis évidemment, toute la période coloniale. Et ce qui fait une relation, je dirais, assez paradoxale, dans le processus de ce qu'on peut appeler l'attraction et la répulsion permanente. Autant le monde occidental, l'Europe, le christianisme, etc., fascine, interpelle, séduit par rapport à un certain nombre d'acquis, notamment sur la question du progrès, sur la question de la démocratie, sur la question du respect de l'individu, etc. Il y a l'ensemble de ces avancées fascine, mais en même temps, il y a une série de répulsions du fait effectivement de l'entrisme de ces forces dans le paysage musulman, l'expérience du colonialisme ou même les guerres du Golfe, etc. Donc tout ceci montre finalement qu'il y a une sorte de deux poids deux mesures qui mobilise et qui crée une certaine rancœur assez profonde, mais aussi après une série de rejets sur les dimensions de la culture occidentale qui peut être faite dans l'esprit de certains par une lecture culturelle, je dirais, par les épiphénomènes de certaines pratiques, notamment sur le plan culturel, la pornographie permissive, une série de clichés qui peuvent être essentialisés à ce que serait potentiellement l'Occident dans son ensemble. Et donc ça, évidemment, on peut trouver dans les représentations populaires ce type de clichés. Mais c'est toujours, encore une fois, sans, je dirais, assise ou sans lecture figée ou monochrome. C'est toujours le phénomène de l'attraction-répulsion qui est là en permanence. Et vis-à-vis de l'Occident ou de l'Europe, on a exactement le même type de rapport. Autant le monde musulman, et vous l'avez dit en introduction, vous avez touché à toute la dimension des émotions, peut susciter de la peur, de l'angoisse, une remise en question, du doute, de la perplexité, etc. Autant en même temps, ça peut être un monde qui, même fantasmé, parce que même le cliché positif peut être en soi chargé de certaines représentations, peut susciter de l'attraction, de la séduction, de la splendeur. On peut renvoyer à beaucoup de choses, même dans l'histoire, la dimension des mille et une nuits, un monde érotisé, avec sa richesse du passé, la science, proche de nous, la dimension de l'Alhambra, toute cette, je dirais, cette contribution, cet apport, cette offre qui crée, si vous voulez, un univers en même temps fascinant et en même temps inquiétant.
C'est ça. Et vous soulignez évidemment aussi cette immense diversité des héritages musulmans. Et j'aime beaucoup cette petite citation de Ibn Arabi, « Les hommes sont ennemis de ce qu'ils ignorent ». Donc il y a vraiment un énorme chantier, simplement, pour revisiter l'histoire avec un autre regard. Nous allons faire une première pause musicale avec Jordi Savall et son ensemble Hespérion 21. Thank you. Vous êtes sur RCF et nous continuons notre entretien avec Farid El-Asri sur la présence musulmane en Europe entre les faits et l'imaginaire. Il nous a dit dans la première partie à quel point l'histoire a laissé toute une série de représentations, d'images, de séquelles, de scories qui font que, et les uns et les autres, nous avons une vision que nous croyons très solide à propos de l'autre. Monsieur Farid El-Asri, vous l'avez entendu peut-être dans la première partie, nous reçoit ici dans son bureau à l'Université Saint-Louis. C'est pour ça que vous entendez peut-être quelques bruits de fond. C'est les bruits de la ville, c'est les bruits de la vie, tout compte fait. Monsieur El-Asri, vous nous avez mis en garde contre les lectures figées de n'importe quelle tradition. La lecture figée essentialise, et alors nous avons quelques grands points de repère, comme Dieu, comme la vérité, comme l'autre. Et tous ces grands points de repère, on pourrait en ajouter d'autres, quand ils se figent, ça devient dangereux.
Oui, et puis notamment dans le passé, on a figé par rapport à la représentation, je dirais, théologique que nous avions de l'histoire. Donc on interpelle systématiquement le référentiel théologique, et notamment Dieu, pour trouver une explication à notre réalité. Et donc la présence d'islam dans le contexte européen mobilise le référentiel théologique. Les musulmans, pour s'accommoder des nouvelles donnes, de leur histoire, doivent évidemment convoquer le texte et notamment trouver un sens, théologique à leur réalité nouvelle. Donc il y a déjà ce rapport figé qui est un ancrage théologique dans la lecture de l'histoire. Et la deuxième des choses, évidemment, c'est, vous mentionniez d'ailleurs tout à l'heure Ibn al-Arabi, sur le fait qu'on ignore finalement, on a peur et on se méfie de ce qu'on ignore, il y a évidemment ce postulat qui empêchait l'ouverture sur l'autre. Et donc on était figé sur soi. Et la nouvelle donne aujourd'hui, c'est que nous sommes figés dans nos représentations, nous continuons ceci, alors que, les frontières ne sont plus ce qu'elles ont été dans le passé. Autrement, il y avait des tensions sur les limes, il y avait deux camps distincts, cette sorte de binarité radicale n'existe plus dans un champ mondialisé, dans un contexte européen où il y a plusieurs millions de musulmans aujourd'hui qui vivent, etc. C'est tout ceci qui, finalement, va d'une part pousser à sortir des conceptions et des représentations figées, mais en même temps va accélérer, va doper l'angoisse. C'est ça, le défi et en même temps le paradoxe dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans une réflexion sur l'autre, mais l'autre qui est devenu nous-mêmes. Et donc ça, en même temps, c'est un moment de crise assez significatif, mais en même temps, je pense que c'est une des voies qui va nous permettre d'ouvrir sur une nouvelle lecture. Et d'une part, on va dynamiser notre regard en ayant, comme dirait un philosophe allemand, être suffisamment large que pour contenir même nos propres contradictions. Et c'est ça l'idée, c'est de composer avec le changement, rentrer sur les défis, accepter, d'oser la transformation. Ça nous demande évidemment un vrai travail, non pas de rupture avec ce que nous sommes, mais un vrai travail de confiance sur ce que nous sommes pour pouvoir accepter finalement une lente transformation et une construction des devenirs en commun. Ça, c'est le vrai challenge. Donc c'est l'autre n'est plus le radicalement autre. La vérité que je porte n'est pas la vérité, arrogante que je peux instrumentaliser et faire dire sur Dieu ce que je veux. Parce que, effectivement, lorsqu'on fait parler Dieu, c'est l'homme qui en parle. Et donc, c'est une réappropriation, une certaine lecture. Et donc, on ne peut pas, la cristalliser comme ça de manière, avec un grand V, une vérité avec un grand V. C'est une position, un discours sur Dieu qui doit être critiqué, nuancé, affiné, réinterprété, confronté. Et donc, c'est une logique de vérité qui se cherche. Et aujourd'hui, c'est une recherche commune.
En effet, et déjà au XVIIIe siècle, Kant disait « ce que je dis de Dieu, c'est un homme qui le dit, et qui le dit avec toute son intelligence et tout son cœur, sans doute. Mais ce n'est qu'un homme qui le dit. Et si Dieu est Dieu, il dépasse tous les discours. » Alors, vous nous invitez à oser mettre ensemble et nos contradictions et les richesses de notre héritage. Et donc, vous nous invitez à la confiance. Pourtant, la présence musulmane fragilise un certain nombre de choses. Cette fragilisation est soit très mal vécue, soit au contraire une chance. C'est bien cela que dans lequel nous sommes pour le moment. C'est la peur de l'autre. Et donc la fragilisation n'est pas facile à vivre.
Oui, elle n'est pas facile à vivre parce que personne n'a été préparé à cette, je dirais, présence sociologique relativement inédite. Ni les musulmans, parce qu'il faut quand même le rappeler, ils restent malgré tout, après 3 ou 4 générations aujourd'hui, portés par une vague qui arrive, je dirais, dans un grand courant de migration économique. Et donc avec une volonté d'arriver dans le contexte européen pour travailler et puis repartir. Personne n'avait anticipé le fait que cette réalité-là allait s'ancrer progressivement dans le paysage et rester. Donc ces travailleurs étrangers, portant dans leur valise de la musulmanité, vont petit à petit poser la valise, l'ouvrir, s'installer, et puis voir les populations musulmanes progressivement se féminiser par les mariages, les regroupements familiaux, et puis par un rajeunissement, notamment par la naissance des deuxième, troisième générations. Et donc tout ceci, si vous voulez, c'est un ancrage qui s'est fait à reculons. Les premières générations ont toujours eu ce réflexe du départ imminent, dans 6 mois, dans 1 an, c'est le début de la crise, il n'y a plus tellement de travail, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et progressivement, ils ont été pris de court, parce qu'on va attendre que les enfants terminent leur maternelle, on va attendre, voilà, et progressivement, ça s'est fait. Ça c'est d'une part. Deuxièmement, pour le cas de la Belgique par exemple, il y a une reconnaissance de l'islam en Belgique en 1974 par un échange aux plus hautes instances belges avec l'Arabie Saoudite, et donc il y a eu cette reconnaissance là, mais personne n'a imaginé que la reconnaissance allait dépasser la dimension symbolique, parce que ça n'a pas été pensé à partir d'une présence, je dirais, effective. Ça s'est discuté au niveau des ambassades et jamais au niveau de la réalité de ces musulmans devenus immigrés dans le paysage. Et donc ça, c'est la première problématique. Personne n'a été préparé à cette rencontre. Deuxièmement, il y a eu des questionnements qui ont été soulevés par cette nouvelle présence et des questionnements qui auraient pu tout à fait être résolus, je dirais, à partir du moment où on était d'une part prêt. Et deuxièmement, à partir du moment où on comprenait ce qui était en train de se produire. Et donc, comme nous n'étions pas prêts, et en même temps on méconnaît, l'objet sociologique ancré aujourd'hui dans le paysage, on n'a pas trouvé les réponses adéquates. Et évidemment, on a plutôt surfé sur de la polémique. Et la réalité de la présence musulmane en Europe, systématiquement, depuis d'ailleurs 1989, qui est un moment clé dans la représentation de l'islam et qui est symbolisé par le débat sur le foulard qui a commencé à Creil en France mais qui a eu aussi en 89 une répercussion immédiate dans les écoles à Charleroi. Ce débat qui dure depuis une trentaine d'années aujourd'hui, eh bien, il signifie quoi ? Il signifie que personne n'était préparé au fait que les générations suivantes allaient continuer un héritage d'islam et le manifester. Et là, on voit des jeunes filles arriver dans les écoles de la République en foulard, et on se dit, il y a quelque chose que nous avons perdu, en termes de lecture et d'analyse fine. Et beaucoup ont fait le pari que progressivement, de génération en génération, il y aurait une dilution du référentiel, je dirais, religieux. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et donc là, il y a eu effectivement une lecture, je dirais, on est passé de l'altérité qui est sympathiquement exotique, vers une altérité qui est dans le corps, dans l'école de la République, dans nos écoles ici en Belgique, et on se dit, ben écoutez, là, il va falloir composer avec finalement une réalité d'islam qui est ancrée à différents niveaux, dans la scolarité, dans les hôpitaux, dans le quotidien, dans l'urbain. Et donc les débats permanents que nous avons finalement sur l'islam, ce sont des débats sur la question de la visibilité de l'islam. Et donc c'est ce que j'appelle la problématique du textile et la problématique de la pierre, le foulard et les minarets. Regardez en Suisse comment nous avons traité cette question-là, c'est sur la problématique de la visibilité dans l'urbain. Oriana Fallaci, à son époque, parlait de attention, ces musulmans qui se reproduisent comme des rats. La question démographique, la question de la natalité, tout le débat que nous avons eu, on avait même un colloque qui s'intitulait Bruxelles musulmane en 2030, grand point d'interrogation. Le premier prénom des naissances à Bruxelles, c'est Mohamed, etc. Donc il y a ce fantasme, je dirais, et cette non-préparation, mais en même temps cette peur sur la question d'une nouvelle visibilité dans le paysage qui commence à redessiner l'altérité de notre ancrage construit sur le judéo-christianisme, sur des piliers gréco-romains, et puis Nadine Morano qui relance le débat sur la race blanche. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que nous avons affaire aujourd'hui à une société qui découvre l'altérité, qui découvre une altérité qui se revendique de l'intérieur. Et c'est là où toute la tension se joue, c'est-à-dire que nous avons des citoyens belges de confession musulmane qui disent que nous sommes pleinement belges, pleinement citoyens et en même temps pleinement musulmans. Et qu'on respecte le cadre de la loi et que finalement il va falloir composer avec cette nouvelle donne, avec cet enrichissement de la définition supposée que nous aurions du citoyen, au-delà même de sa dimension culturelle. Et donc là on a quelque chose ici de relativement tendu, sensible, et qui pousse finalement sur le débat identitaire à une sorte de repli identitaire de la majorité. C'est ça le cœur, me semble-t-il, du débat, et pas seulement, même si cette posture peut exister, un repli identitaire de la minorité. Non seulement la visibilité pose problème, parce qu'elle interroge justement l'identité collective, si cette présence nouvelle se rend visible, pourquoi ? Soit avec l'intention d'envahir le paysage et d'imposer leurs lois, leurs us, leurs coutumes, leurs pratiques, comme on entend souvent auprès d'intellectuels d'audimat, soit ça veut dire simplement autre chose, c'est que ces musulmans se sentent tellement bien ici qu'ils posent les valises définitivement et qu'ils se sentent chez eux. Donc la question d'une mosquée, la question du foulard, la question de telle ou de telle pratique qui va demander des négociations évidemment, mais qui n'est pas une problématique de fond sur la question de la possibilité ou pas. Et donc les enjeux finalement se situent sur le fait que nous sommes dans une situation relativement paradoxale et sensible, c'est-à-dire plus la réalité de l'ancrage des musulmans va réussir, plus le débat identitaire va être crispé. C'est-à-dire plus l'entrée dans le corps et le fait d'être d'ici fonctionnera, plus, je dirais, la remise en question de cette présence va être attisée. Et c'est pour ça que nous avons, si vous voulez, une accélération des polémiques. Il y a quelques années, nous avons un débat sur le foulard qui pouvait durer une année ou deux et puis on partait sur une autre polémique. Aujourd'hui, on a des polémiques qui sont accélérées. La question de la burqa, la question du sécuritaire, toutes ces questions donc de la pratique créent quelque part une démonstration assez imparable sur le fait que vous voyez, de toute façon ce n'est pas possible, de toute façon l'ancrage n'est pas réalisable sereinement. Et donc fondamentalement il y a toujours cette remise en question, le grand point d'interrogation sur l'intégration et de fait de jeter comme ça en science un cadre commun. La laïcité chez nous c'est comme ça. Et on rappelle de manière assez presque arrogante de dire voilà, le paysage chez nous c'est comme ça, vous l'acceptez ou vous le quittez. Et on entend des débats autour de ça, que ce soit sur la question de l'identité européenne, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. On rappelle finalement ce qui fait le sens commun, ce qui fait corps. Mais plutôt que de faire une démonstration de force, c'est un discours qui est très très fragilisé. Parce qu'il est en train de prendre conscience que ce ne sera plus comme ceci. Il y a aujourd'hui autour d'une trentaine de millions de musulmans dans le contexte européen, entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Donc ils sont là, ils sont présents. Il va falloir composer avec cette transformation lente du tissu européen. Et c'est encore une fois une chance. Donc l'islam sur le plan sociologique fait partie de l'Europe. Donc l'Europe est judéo-chrétienne et aussi avec une dimension d'islam. Simplement sur le plan sociologique, mais aussi sur le plan de la pensée. Si on veut être fidèle à une certaine mémoire, une mémoire qui se réconcilie, même la manière de penser, je dirais, participe, je dirais, d'un héritage d'islam. Donc nous sommes portés par ces héritages. Et il n'y a pas de science, de coupure à faire dans la représentation que nous pourrions avoir de la définition profonde de l'Europe.
Je pense que vous êtes en train de déplier le problème véritablement et vous soulignez souvent depuis le début de cet entretien tous les paradoxes dans lesquels nous sommes. Effectivement, quand on pense l'humain, il faut penser en termes paradoxaux. Et on peut poser beaucoup de questions, effectivement. Et je vais en retenir deux et puis nous ferons une petite pause musicale justement pour donner à nos auditeurs un temps pour réfléchir à tout ça. On peut se demander si le foulard, la burqa, si l'abattage rituel des moutons, si tout cela n'est pas finalement un débat un peu superficiel qui nous éloigne du fond de ce qu'est l'islam. Et la deuxième question, à partir de quoi doit-on poser cette question du vivre ensemble? Est-ce qu'on pose la question à partir justement de cette laïcité ou au contraire de la diversité culturelle, la diversité convictionnelle plus exactement? Alors, il y a peut-être plusieurs façons de poser ce problème-là. C'est un problème multidimensionnel et on peut imaginer qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Voilà, nous allons faire une deuxième pause musicale si vous voulez bien. Sur RCF et nous continuons dans les bureaux de l'Université Saint-Louis. C'est pour ça, chers auditeurs, que vous entendez de temps en temps des petits bruits de la ville et des petits bruits de la vie. Nous continuons donc notre entretien avec M. Farid El Asri sur la présence musulmane en Europe entre les faits et l'imaginaire. Il nous a beaucoup parlé effectivement de toutes ces images, de toutes ces représentations qui réciproquement d'ailleurs conduisent nos pensées et figent quelquefois nos pensées. Juste avant la pause musicale, j'avais posé deux questions. Le foulard, l'abattage rituel des moutons qui suscite beaucoup de débats, est-ce que ce n'est pas tout de même des épiphénomènes? Est-ce que ce n'est pas relativement superficiel par rapport à ce qu'est l'islam et à ce qu'il peut apporter au monde et à l'Europe en l'occurrence? C'est une première chose. Et deuxième chose, je posais la question, pour pouvoir résoudre tout ça, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs portes d'entrée? Une des portes d'entrée, c'est tout de même un des acquis de notre démocratie belge, ce qu'on appelle la neutralité active, autrement dit la laïcité à la belge. Mais vous dites qu'on peut aussi entrer dans cette problématique autrement. Donc nous sommes en train d'ouvrir une fenêtre vers le futur. Que faire aujourd'hui pour préparer demain?
Il me semble que ce sont deux questions qui sont relativement liées, parce que d'une part, la première question sur l'ensemble des débats, ou en tout cas des polémiques, qui sont effectivement des épiphénomènes, qui ne nous disent pas grand-chose sur ce qu'est l'islam, mais qui nous disent beaucoup sur la manière de créer, de faire du lien sur la question notamment de la reconnaissance mutuelle et le fait de faire société ensemble. Donc ça nous dit beaucoup de choses. Donc l'ensemble de ces épiphénomènes indique plus sur la société que sur l'islam. Donc il y a une réalité évidemment de résistance. Et l'islam, si vous voulez, en Europe, est passé par un triple mode d'objectivation. L'islam était d'abord perçu comme la présence étrangère conjoncturelle dans le paysage qui allait repartir. Ensuite, on a basculé vers la réalité relativement tendue de l'immigration. Tendue parce qu'il y a évidemment un parallélisme entre immigration et période de crise économique dans le contexte européen. Donc la perception de l'autre comme voleur de pain. Et puis la troisième phase, c'est une phase où on aurait dû passer vraisemblablement vers la posture de l'immigration, vers celle de la citoyenneté. Et la mécanique s'est grippée à un certain moment, avec cette difficulté de percevoir l'autre comme citoyen définitif, parce que s'est invité très vite au débat la question du sécuritaire, la question de l'intégrisme, la question du danger, aujourd'hui plus que jamais, ce danger qui devient omniprésent. C'est-à-dire, c'est plus l'enturbanné barbu effarouché qui crie Allahu Akbar dans les rues, ce danger-là, c'est-à-dire ce danger saillant, relativement facilement identifiable, mais c'est cet intégrisme silencieux qui parle notre langage, qui nous commence à nous ressembler et qui peut être potentiellement, je dirais, vecteur de danger. Donc là, on a quelque chose ici de un climat avec cette lecture d'une glocalisation de la tension, c'est-à-dire que l'international, le global, s'invite au local. Où on crée, si vous voulez, une sorte de confusion permanente entre ce qui se passe dans l'écran de télé et le voisin de palier. Et donc ça, c'est une... On crée un climat qui, par la polémique, devient de la nitroglycérine, finalement. La question de la cantine, la question de l'abattage rituel, la question de la circoncision, on peut citer, il y en a une centaine de polémiques qui touchent directement ou indirectement le débat sur le religieux et notamment sur l'islam, vient conforter, vient agacer, vient irriter. Et on sent dans le langage, on sent dans les débats. Et allez voir dans les réseaux sociaux le type de commentaires qui sont laissés systématiquement sur des informations positives ou négatives sur l'islam. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire en termes de relâchement et de débat sur l'autre à partir des tripes. Donc ça, c'est fort interpellant sur le fait de comment nous devrions composer pour pouvoir d'une part dépasser ce climat et en même temps poser aussi, au-delà d'une lecture utopique gentille et très consensuelle, c'est-à-dire vraiment avoir l'ouverture d'un vrai chantier sur la construction d'un vivre ensemble. Là, le défi, il est pleinement engagé sur le fait que, un, on fait société avec des citoyens qu'on reconnaît et autour de valeurs qui nous sont communes. Et donc là, il y a un vrai débat sur les valeurs. C'est quoi ces valeurs communes ? Et au-delà même de ce que peuvent faire certains dans le débat, si je prends l'exemple de la France sur la question de la laïcité, qui devient nos valeurs contre l'altérité, on se rend compte, à l'écoute des musulmans, la laïcité est plutôt au service même des communautés religieuses et même des musulmans, plutôt qu'autre chose. Mais qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas un problème avec les valeurs, nous n'avons pas un problème avec le cadre et les constitutions et les textes légaux, notamment en Europe. Les musulmans s'y retrouvent. La problématique de fond qui se pose, c'est la redéfinition, voire l'instrumentalisation, voire la surexploitation de certains concepts au point de les faire sortir de leur réalité en tant que telle. Donc ça peut être une conception laïciste, voire une charge idéologique au-delà même du cadre tel qu'il est proposé aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Et le bras de fer se joue là, il se joue en marge des réalités, dans la surexploitation ou dans la redéfinition de certains concepts. Et donc, à la base, le problème ne se pose pas. Il se pose sur le plan de la résistance que peuvent faire certains sur la manière d'être européen. Et quand on interpelle aujourd'hui les musulmans, on interpelle notre, on essaie de poser quelque part sur la table notre propre définition de ce qu'est l'Européen. Si on prend l'exemple notamment d'Éric Zemmour, pour ne pas le citer, il reflète quoi? Il reflète une nostalgie sur ce qu'a été ou ce qu'aurait été la France. D'une part, le grand héritage napoléonien, c'est-à-dire la puissance de la France, et d'autre part, la grande parenthèse culturelle de ce qu'a apporté la France au monde des lettres, etc., etc. Donc c'est une double nostalgie qui nous renvoie finalement à une lecture qui serait pour lui la dépréciation de la réalité du présent, et notamment par la présence de l'altérité, au point où il s'offusque de dire ben, « chez nous, on change de prénom, on prend un prénom français ». Sauf qu'il oublie de composer sur le fait que, sociologiquement parlant, aujourd'hui, Mohamed est aussi un prénom français. Et le basculement, il se fait là. C'est comment est-ce que je peux accepter d'élargir le sens de ma définition, de devenir inclusif. Et inclusif, c'est-à-dire non pas élargir le sens des définitions de mes valeurs, ou non pas de rajouter d'autres valeurs, c'est d'élargir ceux qui portent avec nous ces valeurs. Et c'est ça, c'est pas transformer l'Europe, c'est l'enrichir en confortant les valeurs qui sont les nôtres. La belgitude, elle est aujourd'hui revendiquée aussi par les musulmans. Les jeunes générations musulmanes nées en Belgique se sentent belges, se retrouvent autour de ces valeurs. Et en même temps, ils sont et ils restent pleinement musulmans, avec leurs contradictions, avec leur ambivalence, avec tout ce que vous voulez, avec leur propre définition de ce qu'est l'appartenance à l'islam, etc. Il y a une complexité, je dirais, dans les constructions identitaires. Mais c'est des êtres qui sont pleinement belges, même s'ils continuent de porter un autre prénom, d'avoir une autre couleur ou d'avoir... Mais c'est ça aujourd'hui la réalité de la richesse. Donc c'est... C'est une réconciliation avec le fait que rien n'est figé et que le monde en devenir, aujourd'hui, la présence d'islam est une véritable chance pour l'Europe et réciproquement.
J'ai bien l'impression qu'on peut adhérer à ce que vous proposez. Effectivement, il y a une complexité, il y a des points de repère à définir, nos normes, nos valeurs, etc. Mais qu'un certain nombre de gens utilisent le brouillard, une rhétorique du brouillard. Et donc, on va lancer toute une série de choses. Vous avez pointé notamment cette peur de l'intégrisme silencieux. Et il y a d'autres peurs qui sont distillées. Et comment sortir du brouillard? Je pense qu'il y a les intellectuels, mais vous avez aussi une approche tout à fait originale. Il n'y a pas que les intellectuels, il y a aussi les musiciens.
Oui, on parle souvent, effectivement, lorsqu'on touche à la question de l'islam, d'une certaine minorité visible, notamment les porte-voix potentiels de l'islam européen, que ce soit les théologiens, dans tout le processus d'institutionnalisation de l'islam, ceux qui portent les institutions, etc. Mais effectivement, il y a toute une majorité silencieuse qu'on n'entend pas, et notamment, effectivement, tout un courant jeune d'artistes musulmans, européens, qui, se réapproprient le débat posé aujourd'hui, le débat même de l'islam en jeu. Et ils disent toute leur subjectivité au micro, dans des studios, disent un certain nombre de choses sur les débats en cours, se réapproprient donc leur voix, et en même temps, on voit que ça a un vrai impact auprès des auditoires. Donc il y a aujourd'hui effectivement dans le paysage des artistes musulmans européens qui nous disent la manière dont, sur le plan d'une sociologie du quotidien, comment se font les trajectoires de l'islam, comment se dire en tant que musulman européen dans la réappropriation de l'humour, de l'esthétique, de la sensibilité, des goûts musicaux, et donc en même temps aussi dans la manière d'entrer pleinement dans le débat pour se dire ses fragilités, dire le rapport à la maman, dire son amour, dire leur relation à Dieu, dire ce qu'il pense de son image ici en Europe, etc. Et donc j'ai pris vraiment dans mon travail de recherche doctorale en anthropologie cet angle-là pour voir comment jaillissent derrière un micro la pleine subjectivité des identités, des appartenances d'islam. Et on a effectivement beaucoup de choses qui sont dites, et des courants différents, des relations différentes. Ce que je peux dire notamment, c'est que les artistes belges, français, britanniques, c'est sur eux que j'ai travaillé principalement, reflètent déjà la réalité de leur ancrage national. C'est-à-dire qu'un artiste français musulman reflète un certain nombre de débats, notamment quand on touche à la question de l'islam, tels qu'ils sont posés dans le débat sur la laïcité. On a des artistes musulmans, par exemple belges, qui sont plus dans un rapport du compromis à la belge, avec plus de nuances, moins de tensions. Dans la réalité britannique, on sent bien qu'il y a cet esprit communautaire, et donc avec un travail sur un auditoire et une prise de conscience qui n'est pas à l'échelle, je dirais, nationale, mais qui travaille sur l'échelle d'une communauté. On a par exemple du Islamic rap, du rap islamique là-bas. On pourra avoir, je dirais, une posture de rap un peu guévariste dans le cadre de la laïcité. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes vont aller puncher, entre guillemets, en se réappropriant les débats posés sur l'islam en France, pour dire voilà, ce n'est pas ceci. Et donc ils rentrent dans une sorte de dialectique assez tendue avec l'environnement. Pour le cas de la Belgique, ça semble être plus serein, avec une plus grande, je dirais, plasticité des identités, où il y a une plus grande subtilité sur les choses. Mais c'est un débat qui nous indique finalement la dernière étape du processus d'ancrage définitif des musulmans dans le paysage européen.
Et manifestement, tout cela a énormément d'influence via les réseaux sociaux sur la jeunesse musulmane. Il ne s'agit pas seulement de quelques artistes ou de quelques intellectuels.
Alors, non seulement ce n'est pas une présence d'artistes qui est isolée, mais ce sont des artistes qui, pour un certain nombre, dominent le paysage, je dirais, culturel européen, pour certaines disciplines, et dépassent aussi l'ancrage communautaire. Pour prendre l'exemple le plus emblématique de Cat Stevens, Youssouf Islam, qui s'est converti à l'islam, qui a arrêté pendant 28 ans la musique, et puis là, depuis 2006, il est revenu à la musique, il fait des tournées planétaires, revendique, je dirais, des principes du religieux, qu'il distille ici et là dans ses chansons, et il est dans une réconciliation entre Cat et Youssouf. Et il le dit, si vous écoutez ma musique, vous entendrez Cat Stevens, mais si vous faites attention en arrière-fond, vous allez découvrir Youssouf Islam. Et donc, on a une trajectoire ici relativement symbolique, originale. Mais si je prends l'exemple du rap en France, la majorité des artistes qui font autorité aujourd'hui dans cette discipline sont pour un certain nombre d'origines musulmanes et beaucoup revendiquent la dimension d'islam. Des gens comme Medine, des gens comme Kerry James, Akhenaton, etc., ne cachent pas du tout leur appartenance, Soprano, etc. Ce sont des artistes qui pèsent plusieurs millions, je dirais, de clics sur YouTube. Leurs clips sont visionnés, c'est des artistes qui vendent énormément d'albums, etc. Et donc, de manière tout à fait intéressante, non seulement ils sont présents, je dirais, avec une affirmation de leur identité directe ou indirecte, ce que j'appelle une revendication de musulmanité ou d'islamité, c'est-à-dire qu'ils disent simplement leur appartenance à la religion ou disent des choses sur le religieux, et en même temps, ils touchent de grands auditoires, ils passent à des moments de grandes écoutes, ils sont sur des chaînes télévisées qui passent des clips musicaux de manière constante, etc. Et donc, ils disent aussi, d'une certaine manière, la culture européenne. En devenir, notamment les cultures urbaines et la culture française pour cet exemple-là.
Eh bien, c'est le sujet de futures émissions, en fait, parce que je crois qu'il faudrait que ce courant musical et ce courant sociologique soient véritablement mieux connus du grand public. Merci, monsieur El Asri, de nous avoir guidés dans cette analyse de la présence musulmane en Europe et de nous avoir ouvert une fenêtre, et même probablement plusieurs fenêtres. Un très grand merci de nous avoir reçus ici à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Encore une fois, chers auditeurs, vous avez entendu peut-être les bruits de la ville qui sont aussi les bruits de la vie. À très bientôt, merci à vous tous, et je vous laisse avec Cat Stevens, le musicien anglais dont il a été question dans la dernière partie de cette émission. Au revoir à tous, à bientôt. I was raised in Babylon. Our priest taught us how to worship the sun. Oh, where did we go wrong? They used to call us civilized. Those days are gone.
I came to God the Pharaoh, bring him wine and women, oh Lord, where is he now? We used to call him the highest till the wave took him down. I was born in the Holy Land. They told me it was by God's command. Oh, where are the others from? I thought that we were the chosen. I must have been wrong. I love to march with the Sultan and his diamond turban. Oh Lord, then the world took hold. Let go the rope of God for a handful of gold. I used to serve the empire on which the sun set never. Oh, now times have turned. We thought our white skins would save us, then we got burned. Closed somewhere, there's a door that's opening. When a light goes out somewhere, there's a light that shines.